Salut les marques, salut les sports, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici toutes les semaines on résume et on analyse les émissions de la WWE. On parle catch, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Monday Night Raw du 31 octobre. On était à l'American Airlines Center à Dallas. Un Monday Night Raw historique, hein, puisque on est le Go Home Show avant Crown Jewel, le merveilleux show en Arabie Saoudite, qui se passera samedi 18h ou 17h, heure locale, heure de Paris. Les débats sont ouverts. Mais en tout cas, voilà, ce sera samedi en fin d'après-midi. Pour m'accompagner, vous l'avez entendu, pour l'analyse de cette émission que je rappelle historique, l'inusable Papy. Comment ça va, Papy?
Bonjour, petits enfants, bonjour, Ringside, mais ça va et toi?
Oh, bah, ça va toujours. Toujours quand on vient chroniquer Monday Night Raw. Normalement, le vaisseau mère hein, de la WWE, mais tout ça, c'est fini maintenant que c'est SmackDown sur Fox. Mais bon, on a du beau monde ce soir, hein, puisque Roman Reigns sera de la partie. Et on aura enfin les révélations sur Dexter Lumis, ainsi qu'une défense de titre pour la division féminine. Hein.
Oh, oh, bon, tout n'est pas au même niveau quand même. Hein.
Tout n'est pas au même niveau. On a mis les petits plats dans les plats moyens et les grands plats. C'est ça la soupe Monday Night Raw hein, maintenant avec Triple H aux commandes. On ouvre le show normalement avec les filles, mais on en parlera en fin d'émission parce que tout ça est un peu le fil rouge hein, pour Monday Night Raw cette semaine. Donc on va démarrer avec ce qui se passe un peu après, c'est-à-dire Bobby Lashley qui est, on vous le rappelle, en rivalité à l'heure actuelle avec Brock Lesnar. Donc il y a une interview qui est censée avoir lieu, interview croisée, vous savez, en split screen comme ils ont l'habitude de faire, mais il n'y a que Bobby Lashley qui est là, Brock Lesnar n'est pas présent. Donc Bobby Lashley commence à vanner un petit peu Lesnar en disant que Lesnar n'est qu'un Bobby Lashley wannabe. Et pendant ce temps, le bon Lesnar, lui, il débarque dans l'aréna. Il salue le public du Texas, hein, avec qui il s'entend bien. Il explique qu'il n'est pas venu pour discuter avec Bobby Lashley. Il est plutôt venu là pour se battre, hein, pour donner du spectacle aux Texans. Bon, on n'y croit pas trop, hein, parce que le match, il est prévu de toute façon pour Crown Jewel, cet affrontement entre Lashley et Lesnar. Bobby Lashley, lui, quand même, ça le ravit pas tout ça, donc carrément il quitte son siège de l'interview qui était visiblement backstage et il arrive au ring pour se friter avec Lashley. Alors là, il y a toute la sécurité qui débarque, tous les officiels, y compris Triple H et tout ce beau monde, s'affaire à les séparer. Finalement, on arrive à les séparer concrètement, hein, Lashley et Lesnar. Voilà, une belle mêlée comme on sait en faire à la WWE. Il n'y a pas eu de gros spot quand même parce que les mecs doivent se préserver, je pense, pour dimanche. Qu'est-ce que ça me pensait de ce dernier segment pour cette rivalité entre les deux Golgoth, la WWE, mon bon papy?
J'ai envie de dire simple mais efficace.
Ouais.
Si ça avait été le segment micro, ça aurait été chiant. Là, c'est bien, ça se trouve dans l'arène, ça marche bien auprès du public du coup. Puis en plus, c'est souvent le cas en plus avec Lesnar, comme c'est un peu une bête incontrôlable, en ces cas-là, tu fais sortir tout le officiel, tout le roster. Il y avait même le roster de NXT qui était là. Au début, je vois Von Wagner, je me dis, tiens, c'est marrant, lui, il est main roster maintenant. Puis d'un coup, j'en vois 15 autres que je connais pas non plus. Je suis, en fait, il y a tout le roster de NXT qui est venu pour aider. Et puis voilà, donc c'est. Et puis en plus, ils te le font à l'ancienne avec Triple H qui débarque et qui dit si jamais ils se retouchent, attention, il n'y aura pas de match à Crown Jewel. Donc tu sais que de toute façon, ils ne se retoucheront pas. Ouais. Et puis voilà, quoi, ça clôt le truc. Mais de toute façon, ce match-là, on en avait déjà parlé la première fois finalement, ils s'étaient croisés. C'est un match qui n'a pas besoin forcément d'énormément de storyline. Donc voilà, ils ont envie de se foutre sur la gueule, ils ne sont pas contents. Et on se fout sur la gueule à Crown Jewel, fin de l'histoire.
Exactement. Ouais, non, je suis d'accord. Sachant que de toute façon, l'un comme l'autre, c'est pas des bêtes de micro, hein, que ce soit Lesnar ou Lashley, donc autant sortir les muscles et puis venir faire le spectacle comme ça dans l'aréna avec un Triple H qui s'invite un petit peu hein, dans l'histoire. Mais c'est bien qu'il se montre un petit peu Triple H aussi. Faut qu'il assume sa position de nouveau Vince McMahon à un moment donné.
Voilà. Monte à Trogne.
Voilà, c'est un petit début, comme on dit, hein, parce que bon, comment il s'appelait Adam Pearce. Toi, tu l'aimais bien quand même, Adam Pearce, peut-être.
Bah, moi, je l'aimais pas mal, mais je trouve qu'il a. Ils ont jamais su quoi en foutre, en fait.
Ouais, il est tombé un petit peu dans les limbes.
Jamais assumé jusqu'au bout que ce soit la figure d'autorité, donc du coup, ça s'est fini un peu en eau de boudin pour lui. Hein.
Ouais, ouais. Surtout qu'il a pas terminé sa rivalité avec Ronda.
Ouais, donc bon. Autant. Là, il est toujours là, hein, on l'a vu d'ailleurs. Il
ouais,
là,
ouais, ouais. Flèche,
hein, mais il est devenu. Redevenu membre de. Enfin, un mec
agent,
du backstage,
un
producteur no name en fait. Hein, c'est, il intervient comme n'importe qui.
Ouais, ouais, ouais. À voir la suite s'ils arrivent à nous reconstruire une espèce d'autorité avec des positions bien, bien établies. Bon, en tout cas, voilà, la machine est lancée pour Crown Jewel. L'affrontement des God Gold, on attend du beau spectacle hein, quand même entre les Lesnar et Lashley. Allez, un autre match, alors peut-être qui a été un peu précipité, moi je comprends pas pourquoi ils ont été bookés ce match-là ce soir. Seth freaking Rollins affronte Austin Theory. Theory, il a droit à une petite vignette en bas d'écran, là, dans son petit carré, en expliquant qu'il va apprendre à Rollins la défaite, etc., etc. Alors on nous reparle un peu de l'époque où Austin Theory était l'élève un petit peu, ou du moins où Seth Rollins était le mentor de Theory, c'était il y a pendant la période du Covid. Hein. Souvenez-vous, Seth Rollins, il était avec les Authors of Pain à l'époque.
Ah, je ne sais plus les Authors of Pain. Ah, oui.
Hein, tu te souviens des Authors of Pain? Voilà. Donc on nous parle un petit peu de ça. Puis il y a le match hein, qui a lieu, qui est très. Qui a une belle performance d'Austin Theory, quoi. C'est très disputé le match. Il a un peu du mal à s'imposer. Seth Rollins, ce qu'on remarquera, c'est quand même que Seth Rollins, il est supporté par la foule comme si c'était le top babyface de la compagnie. Hein. Il y a des chants ininterrompus pour Seth Rollins. Austin Theory est copieusement hué. Il y a des chants Austin sucks ou Theory sucks, je sais pas trop, mais en tout cas, il n'a pas un seul moment l'appui du public. Donc match très disputé qui se termine par une victoire de Seth Rollins quand Austin Theory essaye de placer le pedigree pour humilier Rollins. Rollins s'en dégage et il va réussir à mettre au sol Theory et à enchaîner avec le curbstomp comme ça un peu out of nowhere. Victoire de Theory donc, victoire de Rollins pardon.
Rollins, oui.
Et encore une défaite pour Theory. Où on en est avec Theory? Qu'est-ce que c'est que ce Seth Rollins super babyface? Autant de questions. Peut-être as-tu certaines réponses, mon bon papy.
Certaines réponses, je suis pas sûr, mais je vais en tout cas essayer de donner mon avis là sur cette affaire-là. Donc bah ouais, comme toi, je suis surpris de ce match-là qui tombe un peu de nulle part. Alors on en avait parlé. Juste avant l'Euro, que c'était un Euro finalement avec peu de matchs annoncés, et notamment celui-là qui tombe un peu nulle part. D'ailleurs, c'est marrant parce que les commentateurs étaient un peu dans le même esprit en disant on comprend pas, semaine dernière ils étaient plutôt potes et cette semaine ils sautent sur la gueule, c'est un match qu'on n'a pas vu venir. C'est un peu ça qu'on s'est dit aussi.
Ouais, clairement.
A priori, ils ont joué sur le fait que Theory. Après, ça va bien le passage de Theory qui. Veut vraiment montrer que c'est pas un mec surpushé, qu'il est pas aidé, qu'il s'en sort tout seul, et qui du coup Rollins l'a aidé la semaine dernière, en conséquence il veut prouver qu'il y en avait pas besoin et que donc il peut s'en sortir sans Rollins en fait. Donc c'est un peu ça, ça rentre bien avec son personnage, hein, je trouve. Pour Rollins effectivement, du coup, vu qu'il affronte Theory, il prend le rôle du face. Est-ce que c'est surprenant? Pas tellement, parce que depuis quelques temps il fait ses entrées avec la pop du public. Alors même s'il est officiellement toujours heel, il fait un peu comme Roman Reigns maintenant, donc c'est un heel mais qui joue avec le public, où il laisse répéter, alors lui c'est pas ses catchphrases mais c'est sa chanson. Mais bon, c'est le même principe quoi, c'est le public qui est à fond dedans et puis il sait en jouer quoi, donc c'est pas méchant, mais on en revient à ce qu'on disait il y a quelques semaines, c'est est-ce que la WWE est encore capable de faire des vrais heels que tout le monde déteste. C'est une bonne question à se poser.
Ouais. Non, je trouve qu'on navigue dans une ère un peu bizarre. Hein, c'est-à-dire que ils arrivaient plus à un moment donné à faire de bons babyface. Là, ils arrivent même plus à faire des heals détestés. Les heals deviennent populaires. On le verra aussi avec Roman Reigns juste après. Parce qu'il finit quand même, il tape dans la main du public, hein, Seth Rollins, pendant le match.
Ouais, j'ai pas fait gaffe, ça.
Il a toujours son air arrogant. Mais il va pas tricher dans le match. Et il y a une grosse pop quand il gagne le match, quoi. Alors que sa dernière action à Monday Night Raw, c'est d'avoir tabassé Mustafa Ali, quoi.
C'est ouais, quand même,
et d'avoir été très méchant quand même en lui disant tu mérites pas d'être dans ma WWE, etc., etc.
Est-ce qu'il a pas un peu raison?
Bah, c'est peut-être ça qui fonctionne. Et puis je pense que les gens, comme d'habitude, aiment les gagnants. Là, il est dans une série de victoires, Rollins. Il a le charisme. Il fait péter des promos. Effectivement, quand il raconte des trucs, ça vise plutôt juste. Puis voilà, il est extravagant, il est bigger than life. C'est ce qu'on veut d'un catcheur au final. Donc du coup, ouais, quand on en a un, eh ben on commence plutôt à popper pour lui, quoi, au final. Donc on s'engage sûrement, et enfin du moins après cet épisode-là, vers un face turn organique de Rollins.
À voir, hein, parce que
Reigns,
finalement, toujours pas face officiellement. Hein, donc,
C'est ça. On sait, ils aiment bien la jaune de gris, ils l'ont toujours dit. Mais bon, à un moment donné, faut quand même voilà, que tu aies un alignement face heel quand tu bookes des matchs. Il est censé affronter qui, Rollins, à Crown Jewel?
Personne. C'est pas officiel, mais ça sera Ali normalement.
Ali, ouais, mais c'est pas annoncé encore.
Bah non, je pensais que ça serait annoncé.
Ouais.
S'il affronte pas Ali à Crown Jewel, j'admettrais à m'être bien planté, parce que je pensais vraiment qu'ils avaient déterré Ali pour Crown Jewel, justement.
Ouais, on était un peu partis là-dessus, mais c'est pas annoncé, hein, quand même. Donc on verra bien dans le courant de la semaine. De toute façon, Seth Rollins avait dit qu'il allait prendre le contrôle de Raw, on le sentait venir. Est-ce que tout ça va pas partir finalement sur un Rollins Reigns au final, hein? Où va se placer Cody Rhodes quand il va revenir? Au niveau du main event, on commence à avoir des choses intéressantes. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Théorie, comme tu disais, c'est plutôt cohérent dans le traitement, parce que de toute façon, il est lui dans sa spirale de défaite dont il se remettra que quand il décidera de faire quelque chose avec la manette. Mm. Mais en tout cas, je trouve qu'il en impose dans le ring, et franchement, il faisait pas pitié face à Seth Rollins, là. Hein. Il en a quand même sous la pédale. Hein. Je continue à le penser, aussi une théorie. Même si en ce moment, c'est pas brillant pour lui, on va dire, de manière qu'est faible au niveau du décompte victoire de défaite. Je continue à parier sur lui, moi, perso.
Ouais, il est vraiment... tu sens qu'il est vraiment quelqu'un qui peut passer au niveau au-dessus, en fait.
Ouais.
Autant il y en a d'autres où c'est tu sens que ça ira jamais beaucoup plus haut. Mmh. Autant lui, tu te dis, ah, il en a en réserve, et ça peut le faire, quoi, s'il continue à avoir des bonnes idées pour lui.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est là qu'on va voir le travail de Triple H. Si il peut réussir à faire quelque chose avec quelqu'un qui a quand même tout pour lui, hormis pour l'instant le fait de buzzer auprès du public et de popper auprès du public. Donc ça,
Après, il est heal. Hein.
Ouais, pour l'instant, il est heal. C'est aussi normal qu'il se fasse huer.
C'est même bien. Au moins, il fait de la réaction du public.
Ouais, clairement. Voilà. Non, c'est plutôt... Moi, je pense que dans l'absolu, c'est plutôt bien engagé pour théorie. Je reste positif. En tout cas, c'était un super match. Peut-être le meilleur de la soirée, hein, sûrement. Une voiture arrive sur le parking. C'est l'undisputed champion de la WWE, Roman Reigns, qui en sort avec une énorme pop, hein, quand il sort de la bagnole. Après la publicité, il arrive au ring. Alors, il est seul, hein, avec Paul Heyman. Il explique que vous inquiétez pas pour Jey Uso et Sami, ils vont retrouver leur côté UC, puisque c'est le chant que chante le public. Hein. Maintenant, c'est le truc à la mode. Si vous êtes un suiveur, vous pouvez aller écouter d'ailleurs notre dernière review. On vous dit tout sur cette altercation entre Jey et Sami, et ce nouveau cri de guerre pour les fans de la Bloodline. Hein. Feeling you see. Mais bon, il vient quand même pour parler des choses sérieuses, Roman Reigns. Du moins, en parler, pas vraiment, hein, parce qu'il nous explique que... il voit pas pourquoi il se casserait la tête à faire une promo pour son match contre Logan Paul, vu que ça fait 2 ans maintenant qu'à chaque fois qu'il y a un adversaire qui se présente à lui, il finit par l'écraser. Et ça va pas changer avec Logan Paul qui a juste deux matchs au compteur. Donc il dit, moi je ferai pas la promo du match, mais c'est Polo qui va s'en charger.
Ça, c'est pas mal ça quand même. Hein.
Ouais,
c'est... c'est une belle manière suprême. De... Le mépris ouais. suprême de dire, non mais là, comptez même pas sur faire la promo, ce mec-là, il en vaut pas la peine.
ça pose les choses. Hein. Alors le public était un peu, par contre j'ai trouvé circonspect sur le coup, et il avait du mal à réagir, je savais pas trop où aller. Mais bon, c'est pas grave, Paul Heyman reprend le micro, il nous refait un petit speech sur les écrous et les vis qu'a Logan Paul dans sa main, et qu'il est toujours susceptible d'avoir un lucky punch sur Roman Reigns. Hein. Il explique aussi que Logan Paul est entraîné par Shawn Michaels. Mais il va pas au bout de sa promo parce qu'il est interrompu étonnamment par la musique du Miz. C'est le Miz qui débarque dans son plus beau costume jaune et vert comme ça, très élégant. Enfin son costume de catcheur, hein, sa grosse veste en cuir là machin et son cosplay de Naruto là. Il débarque au ring, vient discuter avec le Tribal Chief, hein, il reconnaît tout de suite d'ailleurs Roman Reigns comme son Tribal Chief. Et il explique que lui, le Miz, il connaît bien Logan Paul, c'est lui qui l'a fait venir à WWE, c'est lui qui l'a entraîné. Il dit effectivement, Logan Punch, je me suis déjà mangé le Lucky Punch de Logan Paul, tu as bien vu, Jey Uso aussi, il a été sonné. Voilà, moi je peux t'aider. T'es au courant que j'ai des problèmes avec un stalker là, ce satané Dexter Lumis, donc je te propose un plan, un accord, un deal, tu me protèges de Dexter Lumis et je t'aide à gérer cette histoire Logan Paul là. Roman Reigns il reprend le micro, il dit j'ai l'impression que je l'aime bien ce gars là, ce petit Miz, mais j'ai juste une question, pourquoi tout le monde parle de ce Lucky Punch là, pourquoi tout le monde parle que Logan Paul pourrait mettre Roman Reigns KO alors que paf dans la gueule du Miz, Superman Punch de Roman Reigns sur le Miz par surprise. Roman Reigns reprend le micro et lui dit au lieu de parler du Lucky Punch de Logan Paul, vous devriez plutôt parler du fait que Logan Paul va être mis KO par Roman Reigns. Et il jette le micro et il repart sur le titantron alors que le Miz est sonné au sol et Roman Reigns qui prend à partie la caméra en remontant jusqu'au titantron là, en disant qu'ici c'est son show, qu'il en a marre, qu'on lui manque de respect comme ça, qu'on s'imagine que des mecs qui viennent d'ailleurs puissent le battre. Il dit ça c'est ma caméra, c'est mon show, tout est à moi, et il repart comme il est venu. Donc voilà, comme tu l'as dit, le mépris ultime de Roman Reigns sur cette rivalité, il prend pas du tout Logan Paul au sérieux, on met KO le Miz. Le Miz qu'on retrouvera à l'infirmerie, où il croisera Mustafa Ali, parce que ce soir ils ont un match. Mustafa Ali se foutra un peu de la gueule des Tiny Balls, les petites bouboules du Miz. Il y aura un match un peu plus tard, on en parlera. Qu'est-ce que t'as pensé de cette ultime promo? Enfin, il y en aura peut-être une à SmackDown, hein, on ne sait pas. Cette promo de Roman Reigns pour nous hyper pour cette rivalité avec Logan Paul et ce match à Crown Jewel.
C'est un exercice un peu difficile, j'ai trouvé.
Tout seul, hein, comme ça.
Tout seul. En plus, avec un public qui mange la main de Roman Reigns. Qui n'aime pas Logan Paul, donc et il fait quand même promo 2, donc comme tu dis, ça a un peu perturbé le public, qui ne sait pas s'il devait l'encourager ou pas. Il passe la main au Paul Heyman histoire de s'en débarrasser un peu, puis de se dire avec Paul Heyman il y aura peut-être plus facilement de la hit, qui ne vient pas forcément non plus. Là-dessus, le Miz arrive et le public. Alors, ce qui est drôle, c'est quand le Miz arrive, t'as Paul Heyman et Roman Reigns qui se regardent en disant le Miz, mais qu'est-ce qu'il y a foutu ici, le Miz, quoi. Et c'est quoi le rapport entre nous,
match-up
le Miz, quoi.
Impossible.
Voilà. Et j'ai pas ce que je voulais dire. Et si oui, et du coup, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. le public, il m'avait l'air quand même, je pense qu'il est un petit peu trop à déconnade avec Roman Reigns, et du coup, il avait un petit peu de mal à s'intéresser au truc. Et du coup, eux, le seul truc qu'ils avaient envie de dire, c'était qu'ils avaient envie de voir Roman Reigns se foutre de la gueule du Miz et ses tiny balls et je sais pas quoi, en fait. Et du coup, ça marchait pas trop parce que la menace, en fait, réelle de Roman Reigns sur le Superman Punch, bah, je trouve qu'elle tombe un peu à plat parce que le public, il était pas du tout intéressé par ce qui se passait. Ils étaient en train de faire tiny balls, tiny balls. Du coup, bah, le Superman Punch, il tombe un peu de nulle part et c'est compliqué. Je pense que c'est le contre-coup de la promo de vendredi où du coup ils étaient tellement en fusion avec le public sur la déconnade que du coup là ils n'étaient pas encore prêts à le reprendre au sérieux en fait. Et bah, j'ai trouvé ça juste comme ça. Après c'est le reste, bah il reste quand même tellement au-dessus du reste du roster qu'on peut pas non plus trop arabaisser Roman Reigns qui à lui tout seul tient quand même une grosse partie de la WWE en ce moment quoi.
Ouais. Et on sent qu'ils avaient envie de participer, le public aussi. Donc partir dans un truc trop scénarisé comme ça, ça les a un peu déconcertés, effectivement. Donc ouais, c'est difficile de rivaliser avec la dernière promo de SmackDown. Hein, on vous invite à aller écouter notre review d'ailleurs. C'est il y a rien d'honteux dans ce qui a été fait. Je trouve qu'il rattrape bien le coup quand il remonte sous le titantron et qu'il prend la caméra, même s'il n'y avait pas grand chose à rattraper, mais ça redonnait un petit peu d'intensité à la promo. Il sait ce qu'il fait, Roman Reigns. Il y a pas à chier, mais là c'était un petit peu mal embarqué à la base quand même cette promo.
Ouais, je pense que c'était compliqué à tenir étant donné le. Le public était absolument pas réceptif à ce type de promo en fait.
Ouais. C'est là qu'on voit le talent des Sami Zayn et compagnie quand ils arrivent comme ça à bloquer la foule en leur faisant quasiment un sketch du Saturday Night Live quoi. Là ils essaient de reproduire un petit peu ça là, mais il faut voilà, faut pas oublier le public quand même. On n'est pas au théâtre ce soir non plus quoi. Ça reste un show de catch quoi. La suite des opérations, c'est notre match tant attendu. Karl Anderson contre Damien Priest. Karl Anderson nous représente les OC. Et Damien Priest, le Judgment Day, hein, évidemment. Donc, ils viennent tous avec leur clan. Hein. Karl Anderson est accompagné de Luke Gallows et AJ Styles. Et Damien Priest, bah, de toute la ribambelle, Finn Balor, Rhea Ripley, Dominic Mysterio. On se tient la main. Tout ça dure un bon moment, hein, les entrées quand même. Et puis après, on a le match. Donc, c'est Karl Anderson, à la surprise générale, qui réussit à battre Damien Priest, malgré les interventions du Judgment Day. Il réussit à contrer une tentative de Razor's Edge en roll-up, on va dire, ou en crucifix small package, là. Mais il n'a pas le temps de fêter la victoire, puisque évidemment, le Judgment Day rentre dans le ring, le passe à tabac. Là, les aussi, le reste du clan, hein, AJ Styles et Gallows remontent dans le ring pour protéger Karl Anderson. C'est un peu la bagarre générale jusqu'à ce que Rhea Ripley mette un bon coup, encore une fois, dans les parties, dans le service trois pieds de Gallows, qui s'effondre au sol. Et je crois que c'est ainsi que se termine la séquence. Ah non, je crois que le Judgment Day finit par détruire quand même. Il y a un frog splash de Dominique.
En fait, ils font tous leur finisher après sur AJ. Le aussi en fait, et c'est AJ qui en prend le plus effectivement.
D'accord, ok. Voilà, rien que de très normal. Une nouvelle performance de Karl Anderson cette semaine. La rivalité continue. Moi, j'ai envie de dire quand même qu'on voit que les aussi sont là pour faire le paillasson pour le Judgment Day quand même. Je sais pas ce que tu en penses.
Bah, je suis. Comment te dire ça ? Karl Anderson, ça fait deux fois qu'on le voit en deux semaines là. Je sais pas pourquoi il n'y a que lui qui catch. En plus, il n'est pas forcément dans la forme de sa vie, j'ai l'impression, ce monsieur. Bon, le Gallows, certainement qu'il est encore moins, c'est pour ça qu'il catch jamais. J'ai pas trop compris en fait ce match là. Si je le comprends parce qu'en fait il a perdu la semaine dernière, il gagne cette semaine et puis ils vont se rencontrer à 3 contre 3 à Riyad. Non, c'est pas Riyad, je sais plus où c'est. C'est en Arabie Saoudite.
En Arabie Saoudite, oui.
À Jeddah, peut-être. Bref. Et ce qui est con, c'est que la semaine dernière, ils ont quand même fait tout un laïus sur on a un réa problème. Et cette fois-ci, manifestement, ils avaient oublié qu'ils avaient un réa problème parce qu'ils sont encore pigés par réa. Et ils avaient prévu absolument rien pour contourner ce problème, quoi. Donc, ces arbres, j'espère qu'ils vont pas se refaire avoir en Arabie Saoudite, sinon ça tourne un peu en cette histoire, mais c'est vrai que c'est un peu couillon, quoi, de faire tout un petit passage la semaine dernière sur le fait qu'ils aient constaté que, 3 contre 4, ils s'en sortaient pas pour finalement se faire avoir à 3 contre 4 cette semaine, quoi. C'est un peu con, quoi, de leur part. Donc, c'est du classique de chez classique pour bulleter un match entre plusieurs. Tu fais des matchs individuels, de chacun des membres de l'équipe, et puis rendez-vous à Crown Jewel pour avoir le payoff de cette rivalité.
Ouais, on a peut-être un Luke Gallows qui est pas en grande forme, donc du coup, on double. Il fait les deux fois les 3-8, hein, ce bon vieux Gallows, ce bon vieux Anderson, pardon. C'est du très très classique, hein, au final, avec quand même l'immersion de Rhea Ripley dans l'histoire, qui pour l'instant est en train de tirer son épingle du jeu en mettant au tapis à coup de coup bas tous les membres de The OC chaque semaine. Donc on verra bien ce qui va se passer à Crown Jewel, hein, comme tu dis. Est-ce qu'ils vont encore se faire avoir les OC? De toute façon, moi comme je disais, hein, je reste persuadé que le projet c'est plutôt Judgment Day et Rhea Ripley en particulier, donc encore une fois, je suis pas du tout sûr que The OC va tirer son épingle du jeu de cette rivalité, hein, de toute façon. Puis comme tu le disais, on voit bien que Karl Anderson, il est plus non plus dans la plus grande shape de sa vie. Gallows, on sait déjà, ça fait longtemps que voilà.
Ouais, Gallows, ça l'a jamais été, donc.
Non, le projet de toute façon, c'est Judgment Day. Hein, mais ça fait une équipe quand même un peu crédible pour leur. Une de leurs premières rivalités au final, pour sortir un peu de Edge et compagnie. On va voir comment ça se conclut à Crown Jewel. Hein. D'ailleurs, on va avoir les pronos, hein, le concours de pronos qui va s'ouvrir là, restez branchés. Hein. On en reparlera en fin d'émission. Allez, autre match de Crown Jewel, l'opposition des monstres, Braun Strowman à Omos. En coulisses, c'est MVP qui nous fait une promo. Il s'adresse directement à Braun Strowman. En expliquant que de toute façon Braun Strowman n'a aucune chance contre le géant Omos, et il nous annonce qu'il sera à SmackDown vendredi. Service minimum, hein, sur cette rivalité.
Ouais, mais en même temps, c'est pas plus mal. Ce que j'allais dire, hein, c'est une sous-rivalité entre Lesnar et Lashley, donc ils en font encore moins, mais ils ont raison, parce que de toute façon je pense que globalement on s'en fout, donc c'est pas comme si Omos était invaincu ou je sais pas quoi, là. C'est Omos déjà vaincu qui affronte un Strowman qui revient dans finalement l'indifférence la plus générale. Au début, ça popait pas mal, mais bon, là maintenant, je pense que moi personnellement, en tout cas, j'ai fait le tour du retour de Strowman. Donc, qu'ils fassent leur match et puis qu'ils fassent autre chose, quoi.
Ouais, en espérant. Alors, le challenge, de toute façon, c'est de Strowman de sortir un bon match avec Omos. Les paris sont ouverts. Allez, un mec, un vrai, une star, un Hall of Famer, un JBL. Ah. Un bonhomme. Voilà, JBL arrive au ring. Il est heureux, il est au Texas. Donc, il est là, il nous dit que le Texas, c'est quand même la plus belle région des États-Unis. Hein, c'est le cœur des États-Unis. Il y a des légendes comme Stone Cold Steve Austin qui viennent du Texas, tout ça. C'est peut-être le plus grand État des États-Unis. Mais que tout ça est gâché par l'arrivée de Snowflakes. Donc, des flocons de neige, voilà, pardon, je trouvais plus mes mots. Les petits flocons de neige que sont le public ce soir, qui méritent pas du tout de s'appeler des Texans, parce que c'est des millennials, des faibles, des culture woke. Il est dégoûté par ce public, JBL, donc il se prend une bonne bronca du public. Et puis il vient évidemment pour nous présenter le dieu du catch moderne, Baron Corbin, qui arrive au ring. Corbin dit au public « You're welcome, hein, de rien, si je peux faire plaisir, hein, je sais que vous êtes heureux de venir m'admirer, moi, le dieu du catch moderne. Vous avez d'ailleurs usé vos dernières économies là pour venir me voir. Vous avez dû travailler dur, faire des heures supplémentaires à la ferme ou à l'usine où vous travaillez. Mais la vérité, c'est que on ne saura pas, puisqu'il y a une musique qui retentit. C'est Ertrus qui débarque maintenant à chaque fois qu'on mentionne son nom. Donc il arrive au ring, il est déguisé en cow-boy. JBL se dit, mais l'arrête tout de suite. Il dit, t'es ridicule avec ton costume. Ertrus, il reprend le micro. Il dit, ouais, moi, tout ce que je voulais, c'était souhaiter un joyeux Halloween à tout le monde et vous dire que j'adore votre costume d'Halloween, à vous deux. Alors JBL répond qu'il n'est pas du tout costumé pour Halloween, hein, que Baron Corbin non plus. Il traite Truth de stupide. Et Truth reprend le micro en disant que, en continuant à se foutre de la gueule de JBL, en lui disant qu'il est déguisé comme un, qu'il est habillé comme un vieux monsieur aigri et méchant. Il commence à se foutre de la gueule de Corbin, mais là Corbin attaque, Truth esquive immédiatement, il met Corbin au sol, JBL s'interpose, et c'est la distraction qui suffit à Corbin pour poser son End of Days. Voilà, on a séché Ertrus qui était venu ramener sa fraise dans le segment. Et donc, encore une semaine avec la présence de JBL en mentor de Baron Corbin. Meilleur promo de la soirée ?
Oh, bah en tout cas, une promo qui suintait la vérité. Effectivement, les jeunes générations texanes, un peu comme les jeunes générations françaises, n'ont pas la grandeur des générations précédentes. Et,
c'est ça.
Et voilà, ils ne font pas le figure par rapport à leur grande histoire du passé maintenant. Donc, ils sont tous là, les boutonneux, là, sur Internet, et à s'extasier devant des machins et des kicks et des trucs. Des acrobaties, en veux-tu, en voilà. Voilà, nous, on veut du vrai catch qui suinte et qui claque. C'est ça, les vrais bonhommes qu'on veut, là.
Ben bon oui, sens. On n'est pas venu voir de la danse moderne, là. Enfin, quelqu'un qui ramène, qui pose l'église au milieu du village, là, et puis qui souligne un peu les vrais problèmes de l'univers du catch. Moi, je suis content, je suis toujours heureux de revoir JBL.
Ben ouais, et puis il a raison, au-delà même du catch, la vie en général, hein, qui part à volo, là, franchement.
C'est ça. C'est là qu'on voit un vrai heel, hein. C'est quand il vise juste, tu vois.
Voilà.
Et on peut que rejoindre JBL là-dessus. Il y a une génération qui est moins bonne que les autres, et c'est la génération actuelle, il faut le dire.
Ouais, les millennials.
Les millennials. Hein, il a mis le doigt sur le problème, et honte à Ertrus d'avoir voulu s'immiscer à ce moment-là. Et on est bien content qu'il soit fait sécher.
Voilà, bien fait pour sa gueule.
Ertrus, c'est un peu le patient zéro des millennials, quoi. Un mec un petit peu débile qui...
Voilà, mais...
Peut chanter du rap et... C'est ça, puis en cow-boy.
Ils se retrouvent en le regardant, ils disent, voilà, on peut réussir en étant débile. Bah non, les millennials, il faut bosser. Non,
faut bosser, c'est ça. Puis quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est pas la peine de chouiner. Hein.
Voilà.
Faut accepter d'être
la vie est dure.
C'est tout. La vie est dure, voilà, c'est pas que du bonheur tout le temps. Voilà, en tout cas, une promo parfaite de JBL. Est-ce que Corbin, il a vraiment besoin de JBL? C'est ce qu'on se disait, on en discutait avec Giscal avant l'émission. Je suis un peu d'accord avec lui que c'était peut-être pas non plus le mec qui avait le plus besoin de JBL dans l'histoire, Baron Corbin.
Après, ça dépend ce qu'ils veulent en faire, en fait. J'y réfléchissais après, suite à la discussion justement sur le Discord. Je réfléchissais un peu et je me disais effectivement Corbin il était totalement légitime dans son rôle de mid-card heel qui marchait bien en plus, hein, vis-à-vis du public. Il était tout le temps détesté, donc c'est un mec qui faisait super bien son boulot. Après JBL c'était justement le mid-carder heel qui était passé au main event heel avec en changeant de personnage un petit peu d'ailleurs. Je me demande est-ce que c'est pas pour aider cette transition là qu'il était recruté en disant bah Corbin peut-être un jour tu vas passer l'étape main event en fait. Parce que c'est quand même un ancien vainqueur de Money in the Bank et je pense qu'il a tellement une hit facile Corbin que si tu arrives à le faire passer le rendre légitime en main eventer en plus avec son finisher qui est quasi invincible hormis là à WrestleMania contre McIntyre tu peux peut-être en faire un main eventer heel de transition qui va t'occuper l'écran quelques mois le temps que justement on disait qu'on n'avait plus à avoir de babyface et ben peut-être que ce mec-là pourrait en générer en fait. Je vois que ça parce que sinon si c'est pour laisser en mid-card il n'y a aucun intérêt, oui.
Ouais. Parce que moi, cette semaine, j'avais l'impression qu'en plus, il régressait un petit peu Corbin, qui se reposait trop sur JBL.
Ah, c'est le risque, hein.
C'est le risque, hein. Mais voilà, si effectivement le projet, c'est de l'envoyer au-dessus et d'en faire pourquoi pas un champion de transition, d'aider à la construction des faces. C'est déjà le boulot qu'il fait depuis un moment, mais le faire déjà, au niveau au-dessus, voilà, le fait plus pour établir les main eventers comme des vrais main eventers face à des heels level supérieur, quoi, quand on tourne autour du titre, quoi.
C'est peut-être la place de Hall of Fame de Corbin qui va se jouer là-dessus, hein, parce que
ouais.
Là, actuellement, je pense qu'il n'y irait pas. S'il arrive à être un futur champion du monde, tout ça, là, la question se posera un peu plus, quoi.
Exactement. Donc, c'est le projet Baron Corbin, de toute façon. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, bon, on est toujours content de voir JBL. Pour moi, c'est les meilleurs moments de l'émission. Hein. Ne tournons pas autour du pot. On a ensuite un classique des classiques, le Trick. Oh, tiens, c'est difficile à dire en fait. Trick or Street Fight. Donc, c'est le petit combat de Halloween où ils utilisent des citrouilles, des kendo sticks, des bonbons. Alors, il n'y avait pas de pommes d'amour, etc. cette fois-ci. Et qui c'est qui s'y colle cette année plutôt? C'est Matt Riddle accompagné de Elias et il affronte Otis accompagné de Chad Gable. Chad Gable qui est venu déguisé en Patrick Swayze dans le truc de danse là. C'est pas Flashdance. J'ai plus le nom du film. C'est pas grave, hein, vous souvenez. Alors ils font un petit pas de danse quand même avant d'arriver au ring. Matt Riddle, il est déguisé en Ezekiel.
Oui, très beau déguisement.
Très beau déguisement d'ailleurs. Moi, ça se fout sur la gueule avec Otis et tout ça. Hein, c'est un match, tout ce qu'il y a de plus spectaculaire. On s'expose des citrouilles, on s'explose sur la table des commentateurs. Et finalement, Otis, il va se terminer avec la citrouille sur la tête et puis un bon RKO hein, pour le tomber. 1, 2, 3. Victoire des gentils. Voilà, c'est le classical Trick or Street Fight d'Halloween. C'était plutôt sympa, moi, j'ai trouvé, non?
Ouais, et puis moi, je fais pas partie... forcément, on n'est pas le cœur de cible, vu que nous, Halloween, ça nous parle moins que les États-Unis. Pareil, quand ils feront la bataille de bouffe de Thanksgiving qui va forcément arriver à un moment, c'est des trucs, c'est des espèces de traditions. Moi, ça me gêne pas. Au contraire, je trouve ça bien qu'ils fassent ces trucs-là qui pour le coup, généralement, ils cartonnent auprès du public, hein, ces matchs-là. Des matchs à stipules un peu fun. Il trouve toujours un petit moyen de faire un petit moment sympa. Là, c'était la citrouille sur la tête d'Otis, sur le pauvre Otis qui devait absolument rien y voir avec la citrouille sur la tête parce qu'ils ont dû le guider pour qu'il se prenne le RKO. Et même le RKO, il l'a loupé parce que du coup, il n'a pas vu Riddle se lancer. Il est tombé trop vite en fait. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas le but de faire un joli match pour ce genre de circonstances. C'est plus de faire le gogol et faire plaisir au public. Et ça a bien marché parce qu'ils étaient. Tous plus ridicules les uns que les autres avec leur déguisement pas possible à Otis et cette espèce de mini slip et son papillon, c'était affreux, mais bon, c'était drôle parce qu'il est allé à fond Otis, il a refait tous ses signature moves un peu là, le worm là, il a fait aussi des gestes depuis la troisième corde, le public a super bien réagi à son travail quoi. Donc je trouve qu'ils ont bien fait le taf, il y a que Elias qui continue pour moi de errer depuis qu'il est revenu avec son personnage d'Elias. Je ne vois absolument pas à quoi il sert pour l'instant. Et ça pourrait être n'importe qui, ça serait la même chose.
Ouais.
Attention Elias, je ne sais pas si c'était forcément la bonne idée du siècle de reprendre ce personnage-là. On verra avec le temps.
Ouais, on verra avec le temps. Là, c'est un peu bizarre cette association avec Matt Riddle. Matt Riddle qui est, je trouve, un peu en peine hein, depuis qu'il n'est plus avec Orton. Il n'a pas encore le truc pour monter dans le main event hein, au final. Il était porté un petit peu par Rollins dans la rivalité précédente, mais tout ça a profité plus à Seth Rollins quoi au final. Et puis il empêche un petit peu d'Elias de décoller, je trouve, pour son retour. Otis, il y a toujours un truc à faire avec Otis. Hein. Moi, je le dis. C'est bien hein, l'Alpha Academy, mais Otis, on peut faire des grandes choses avec lui. Hein. Je pense qu'il l'aura montré ce soir.
Ouais, après, je ne sais pas si c'est les catcheurs en eux-mêmes qui n'arrivent pas à passer niveau dessus, si c'est justement là cette nouvelle de WWE nouvelle version où du coup tu as très peu de gens qui se détachent finalement. Et la personne qui est mise en avant. Alors là, sur Arrow, t'as un peu Rollins, mais par la force des choses, en fait. C'est juste que par son talent, il arrive à.
Les mecs qui sont établis, quoi, depuis avant.
Voilà, à récupérer la pop. Mais c'est pas le booking qui l'aide, hein, Rollins, parce que il fait des matchs contre des low-carders, il a pas énormément de temps d'antenne. Hein. C'est juste parce que c'est effectivement, il est établi, donc du coup, plus qu'accroche. Mais il y a personne qui est vraiment mis en avant et qui monte dans la carte. Enfin, les low-carders sont montés un peu à niveau mid-card, mais ça va pas au-delà, je trouve. Hein. Y a pas... Tu me dis qui est le main eventer actuellement de Raw, bah, j'en ai foutrement qu'une idée, quoi.
Moi je mets sur Rollins. Mais ce qui s'impose. Tu vois, par exemple, Lashley, c'est aussi compliqué pour lui, au final.
Ah oui, ils sont
alors qu'il galérer, était, il était passé dans le main event, hop, ça patine. Et à SmackDown, c'est pareil, c'est Roman Reigns qui a pris le contrôle. Il y a Sami Zayn qui est là. C'est ceux qui arrivent à tirer les Usos qui font un travail impeccable. Et puis le reste, ça bouillonne comme ça, mais il n'y a rien qui se passe. Quoi. Peut-être Kevin Owens aurait peut-être sa place dans le haut de l'affiche à Raw, mais on ne le voit plus.
C'est ça. Non, c'est justement celui que j'allais citer. J'allais dire Kevin Owens. Il aurait dû normalement. Et au final, il a fait un ou deux shows où il était bien, puis après, il a disparu. Il paraît qu'il était à NXT l'autre jour.
Ils l'ont envoyé à NXT, c'est ça. J'allais dire, est-ce qu'il a un contrat spécial qui fait qu'il ne vient pas bosser toutes les semaines? Mais non, c'est vrai qu'ils l'ont envoyé à NXT. Alors, il y a cette volonté aussi de rapprocher NXT du main roster. Il ne faudrait pas que ça tire le main roster vers le bas aussi. Hein.
C'est ça, hein, c'est que il faut pas que ça vise une moyenne entre les deux, parce que sinon, ça ne sera pas bon, les gars. À la limite, qu'on ramène NXT au niveau du main roster, pourquoi pas. Si c'est rapproché les uns vers l'autre, on va avoir un truc moyenasse là. Je suis pas super confiant. Et même à McIntyre, tu vois,
il est embourbé aussi dans son truc. Tu vois, les mecs qui étaient sur le point d'exploser, sur lesquels ils avaient travaillé et qui s'étaient fait couper les pattes un peu avec le Covid, du coup, on est repassé au level moins un, quoi, j'ai envie de dire presque. Parce que là, qui se souvient que McIntyre il a gagné le Rumble, qu'il a battu Brock Lesnar, etc. Ça s'est oublié, pareil pour Lashley. Il refait ses preuves face à Lesnar, quoi, alors qu'il l'a déjà battu. Lesnar qui est en train de se réimposer tranquillement comme le mid-carder qui fait les grosses affiches, quoi. Là, vraiment que Rollins d'un côté et puis Reigns, Zayn et les Usos de l'autre, quoi.
Et encore, hein, Zayn et les Usos, c'est vraiment parce qu'il y a Reigns, je pense, qui domine. Hein. Les Usos, ils ont énormément de talent, mais je pense qu'ils seraient au niveau du New Day ou des conneries comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils feraient.
Du coup, ils ont réussi à s'attacher et à pas lâcher le train en route, quoi. Pareil pour Zayn, tu vois, maintenant qu'il est incrusté dedans, il va essayer de rester le plus possible dans l'histoire.
De toute façon, c'est le seul truc qui marche, la Bloodline. Donc, ils ont intérêt à s'accrocher comme pas possible. Hein.
Ouais. C'est pas des mecs qui vont se flinguer. Entre temps, il y a le Miz qui essaye de faire quelque chose aussi, mais bon, le Miz, ça reste le Miz, quoi.
Non, le Miz, il est en dessous. Et c'est court à dire, mais quand Roman Reigns dit le Miz, derrière méprisant, qu'est-ce qu'il y a à foutre dans ma promo, il a quand même pas loin d'avoir raison, en fait. Le Miz, il est plus du tout. C'est là depuis un an, là, il est plus du tout au niveau des main eventers, en fait. Et il traîne avec ces petites histoires-là, on va voir la suite tout à l'heure, c'est plus du tout des histoires de main eventers. Hein.
Pourtant, il était champion il n'y a pas si longtemps.
Il y a un an.
On y arrive doucement, hein, cette histoire du Miz qui affronte aujourd'hui Mustafa Ali. Mustafa Ali qui va gagner le match. Un match aussi bien disputé, hein, mais il arrive à placer un super kick et planter son 405 splash, tout simplement parce que, évidemment, Dexter Lumis était dans le public et il attaque le Miz à un moment donné. Dexter Lumis, dont on va avoir un peu plus d'infos, puisqu'il y a un épisode spécial, une édition de WWE Investigates, les investigations sur la WWE, qui sont présentées par Baron Saxton. Donc c'est un petit segment qui est monté comme une interview, comme on peut voir dans les émissions d'investigation là, à la télévision. C'est Johnny Gargano qui est interviewé et qui nous fait des révélations sur Dexter Lumis. Et donc, l'histoire, c'est qu'en fait, Dexter Lumis aurait été payé par le Miz pour l'attaquer, pour garder le Miz relevant un petit peu, pour que le Miz garde de l'intérêt, surtout pour avoir à chaque fois des excuses pour ses différentes défaites. Puisque par exemple, contre Lashley, quand il a perdu la ceinture, tout le monde savait que... Enfin, c'est pas quand il a perdu la ceinture, mais bon, la dernière fois qu'il a affronté Lashley, tout le monde savait qu'il allait pas gagner contre Lashley, le Miz, évidemment. Donc voilà, les révélations. Le Miz aurait payé Loomis pour l'attaquer, pour créer du buzz, parce que c'est une star wannabe, quoi, le Miz. Et qu'au bout d'un moment, bah, il aurait peut-être pu payer Loomis. Et là, il n'a pas de preuve de ça. Hein. Gargano, il a un enregistrement sonore où on entend le Miz ben donner des ordres à Loomis, mais il n'a pas de preuve que le Miz... Ça, c'est juste une supposition que le Miz aurait arrêté de payer Loomis et qui expliquerait pourquoi désormais Loomis l'attaque sans raison. Et tout le segment, alors il y a des reconstitutions où Gargano est déguisé et flouté un petit peu pour jouer les différents personnages de l'histoire. Tantôt il joue le Miz, tantôt il joue Maryse, tantôt il joue Dexter Lumis. Voilà, il y a des rappels à NXT. Hein. Gargano nous explique que Lumis, il le connaît bien parce qu'il faisait partie de sa famille à NXT. Ce qui est rigolo, c'est qu'il dit qu'à un moment donné, après le mariage, hein, parce qu'on se souvient que Dexter Lumis à NXT, pour ceux qui ont vu, s'est marié avec Indy Hartwell, qui faisait partie du clan de Gargano, The Way. On a eu un mariage et tout, une lune de miel. Et là, Gargano nous explique qu'après le mariage, tout s'est gâté parce que Lumis a perdu son boulot. Donc perdre son boulot, ça veut dire c'était le moment où il s'est fait virer par la WWE, quoi. Mais voilà, donc un segment rigolo, quoi. Finalement, on est dans les trucs un peu goofy, hein, avec cette histoire de Dexter Lumis. Hein, ça se concrétise visiblement. On joue aussi la carte de l'humour pour Gargano. Toi qui détestes Gargano, ça n'a pas été trop pénible?
Ah si, c'était vraiment pénible ce segment. Vraiment pénible parce que je l'ai trouvé mal foutu. Il m'a pas fait rire en fait, moi.
Bah, il y avait une volonté de faire une parodie d'émissions de télé. Ouais, ça marche plus ou moins bien.
Et je trouve qu'il a. Il a. C'était le Johnny Gargano show et c'était pas intéressant le fait que celui qui fasse le personnage, ouais, ça pourri. Et le plus con du con, alors là c'est là où il m'a énervé en fait. C'est qu'à un moment, il montre des images de Loomis qui enlève le Miz. Et il fait, regardez, on voit bien le Miz, il aide Loomis à l'enlever. Là, il marche et tout. On voit bien que c'est son complice. Ouais. Non, mais alors, quand tu commences à montrer que le catch est faux, ça n'a pas du tout, quoi, mon garçon. Là, c'est carton rouge. Il ne faut pas faire ça, monsieur Gargano. Là.
Tu as charge contre Gargano. C'est pas si grave.
Mais c'est vrai. Franchement, tu...
Il est dans le scénario du truc, il essaie de montrer des preuves sur.
Effectivement, quand n'importe qui fait un mouvement, bah, t'as toujours l'autre qui l'accompagne. Il ne faut pas le montrer, ça. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Là,
je pense que tu changes la vie.
Moi, je trouve que ce n'est pas bien. En tout cas, il ne m'a pas intéressé du tout. Je trouve que ce rebondissement, il est pourri. et puis voilà. Bah, voilà, je carton rouge pour ce segment.
Ouais, mais je sais pas si toute l'intrigue est pas pourrie au final.
Ouais, l'intrigue de base,
ils sont gentils, mais ils savent pas quoi en foutre en vérité. Je sais même pas, ils ont même pas l'air d'avoir envie de le faire catcher. On n'a pas vraiment envie de le faire catcher.
C'est 5 ans qu'il catche pas.
Ouais, c'est clair. Je pense Triple H, il a son histoire à raconter avec Loomis, machin. Il va nous la raconter jusqu'au bout. Peut-être que ça mettra au vert Gargano, peut-être pas. Il y a peu de chance quand même. Parce qu'au final, il catche pas Gargano. Au final, j'ai pas l'impression que le public s'intéresse plus que ça à lui. On est vraiment dans le côté série télé de Triple H qu'il avait. En plus, ça suit la continuité d'NXT, tout ça. Donc, je pense que ça doit faire plaisir à une partie du public qui regardait NXT, qui a envie de voir une continuité entre NXT et le main roster. Mais je suis pas sûr qu'ils sont si nombreux que ça, en vérité. Surtout sur la période. Sur la période Gargano, mariage, The Way, etc. C'est pas la période de NXT où la fanbase était la plus solide. Hein, j'ai envie de dire.
Non, mais ça fait plaisir à 15 gosses de faire la continuité entre NXT et Hero, franchement. Et puis, à la fin du segment, j'ai pas l'impression que le public était extatique, hein, quand il a vu ça.
Ouais. Wow. Je suis pas sûr que ça marche au niveau du public mainstream, au niveau du public live. J'ai beaucoup de doutes sur la popularité de Gargano en lui-même à l'heure actuelle. Ça s'est pas démontré dans des matchs, en tout cas. Il y a pas des matchs où ça a popé plus que ça dans les semaines où il est venu. Rentrer directement dans cette histoire avec Loomis et se retrouver sur un truc très scénarisé autour du Miz avec des références à NXT, tout ça, pour moi, tout ça, c'est un mauvais move. Hein. C'est, voilà, je reviens à ce que disais, ça doit faire plaisir à quelques fans et à Triple H qui visiblement a des ambitions de scénariste un peu plus développé que Vince McMahon. Tu es plus dans l'improvisation permanente et dans la vision sur le très très long terme.
Bah, qu'il retourne faire le chaperon là et puis qu'il nous fasse pas chier Triple H.
Voilà, bah, d'ailleurs la touche Triple H, c'est aussi la division féminine qu'on trouve en ouverture de show. Hein, vous avez dit qu'on vous gardait le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qui se passait en début de show? C'est Nikki Cross de retour. Hein, souvenez-vous, elle était venue la semaine dernière et a tabassé tout le monde. Elle affronte Bianca Belair parce qu'elle lui avait coûté le match contre Bayley la semaine dernière. Donc ça se fout sur la gueule et finalement c'est Bianca Belair qui gagne. Parce qu'il y a Damage Control qui se pointe à un moment donné, non, c'est pas ça. Puis il y a Asuka et Alexa Bliss qui débarquent aussi.
C'est ça, ouais, au final, du coup, ça déconcentre Nikki Cross qui se fait avoir voilà. Par le KOD.
KOD, puis il y a bagarre générale, Asuka, Alexa Bliss, machin. Et du coup, on a en main event un championnat pour le titre de championne des filles, donc comme toutes les semaines. Alexa Bliss et Asuka en challenger contre Damage Control. Donc c'est un match qui va durer très longtemps où à un moment donné Bayley et Bianca Belair qui sont à l'extérieur du ring vont se foutre sur la gueule très férocement en passant par-dessus les barricades. Elles vont monter dans le décor Bayley to Bayley depuis une plateforme qui atterrit sur une table en contrebas. Voilà, cascade façon go home show entre Bayley et Bianca Belair. Pendant ce temps, le match continue dans le ring. Donc ça enchaîne. Il y a des botches incalculables, innombrables. Voilà, c'est plutôt ça le mot. Innombrables d'Alexa Bliss. Ça tourne dans tous les sens. Et puis à la fin, à la surprise générale, Bliss met un dropkick sur je ne sais plus qui est pris. Avec une prise par Asuka foutu au sol et Alexa Bliss place son Twisted Bliss là. 1, 2, 3, c'est la victoire de Alexa Bliss et Asuka, nouvelle championne. C'est la fin du règne de Damage Control sur la division tag team féminine, à la surprise générale. C'est Dakota Kai et Io Sky, hein, les anciennes championnes. Je crois que j'ai même pas mentionné leur nom. Voilà, victoire surprise pour ce go-home show de Alexa Bliss et Asuka. Et la rivalité continue entre Bianca et Bayley. Qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça?
Qu'est-ce qu'on a pensé? Pour revenir sur la partie opener, donc Nikki Cross qui finalement se fait latter par Bianca, moi ça m'a pas tant dérangé que ça parce que je pense que de toute façon c'était complètement fou de la mettre au niveau de Bianca après son retour dans son personnage, donc c'est pas plus mal que directement il la refroidisse en la faisant perdre.
Oui.
Ensuite le main event en lui-même, alors effectivement j'ai trouvé comme toi que Bliss était en difficulté au niveau du catch.
Ah, elle arrivait pas à suivre au niveau des
le rythme.
Ça va très vite avec là il y avait Asuka. Io Sky, ça va super vite et Dakota Kai, elle va vite aussi.
Ce que je veux dire, elle rassure quand même le rythme, mais par contre, Bliss, elle n'arrive pas sur le rythme. Et donc, souvent, ses coups étaient à contre-temps. Alors, ce n'était pas du botch, c'était juste du contre-temps, je trouve, moi.
Ouais.
C'est pas faux. En tout cas, ça permet de voir que les coups ne sont pas portés, et donc, c'est pas terrible. Après, la victoire des gentils est plutôt une bonne surprise, j'ai envie de dire, parce que sur le coup je le vois pas venir, surtout qu'en plus t'as tout le segment en fait où t'as Io qui tape sans que l'arbitre le voit, ensuite Bianca se fait sortir par Bayley, donc tu te dis, bah attends, et on a eu le coup du heel qui tape et qui se fait pas prendre. On a eu le coup de la gentille qui va les aider, qui se fait sortir. Bah, ça va se finir encore une fois avec un 3 contre 2. On se fait avoir. Et bah non, en fait, Bayley était KO d'avoir sorti Bianca avec son belly to belly sur une table. Et du coup, bah, les deux autres, bah, elles s'en sortent quand même, Asuka et Bliss. Et elles remportent une belle victoire, j'ai trouvé, mine de rien. Elles ont le match, malgré tout, était comme bien sympa. Les filles avaient l'air, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais elles avaient l'air plutôt contentes d'avoir gagné. Je me suis dit, bon, bah, ça fait plaisir pour elles. Et puis, bah, ça rabat un petit peu les cartes, même si du coup, bah, je me dis que c'est le théorème du booking inversé. Là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites pour Damage Control. Avant un match où il n'y aura pas de disqualification, je pense que c'est peut-être la défaite de trop pour finalement permettre à Bianca d'être trop tranquille pour ce match-là. Donc on verra ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai plutôt globalement apprécié comme le main event à ce niveau-là.
Ouais, effectivement, si on met à part la prestation de Bliss, le match est loin d'être dégueulasse. Hein. J'étais méchant avec, mais effectivement, ça catche bien. Elles se connaissent, hein, Dakota Kai, Yosuke et Asuka, donc ça va très vite. Mais moi, ce qui me posait problème, c'est que le public n'était pas vraiment dedans jusqu'à ce qu'il y ait le gros spot entre Bayley et Bianca. Après, ça a réveillé un peu le public. Ils ont suivi un peu plus ce truc, mais c'est retombé quand même assez rapidement. La victoire, quelque part, c'est logique parce que c'est quand même deux anciennes championnes de la division féminine, hein, mine de rien, Alexa Bliss et Asuka. Donc, quelque part, c'est tout à fait normal qu'elles aient une victoire sur les deux rookies. C'est quand même assez culotté de faire un main event avant Crown Jewel pour le Go Home Show avec les filles. Pour le reste, c'est quand même très très long. Le public n'était pas vraiment dedans. Voilà, on souffre encore le catch féminin, Monday Night Raw. Voilà, la carte de la soirée, c'est quand même. J'ai pas trouvé ça très digeste, moi, honnêtement. Et ça conclut quand même le Go Home Show sur un truc un petit peu mou, quand même. Du moins, qui passionne pas le public tant que ça. Donc. C'est bien pour elles ont fait du beau boulot, ça donne encore du prestige au titre, mais est-ce qu'on a envie vraiment que ce soit ça qui soit pêché à Monday Night Raw ? Moi, je ne suis pas trop d'accord quand même.
Ouais, après, il y a un truc, et je ne sais pas si c'est ça qui a un peu perturbé le public, c'est que quand il y a eu Bianca et Bayley qui sont face à face, ils ont mis un espèce de méga spot de lumière sur Bianca et Bayley, mais en dehors du ring du coup. Et du coup, bah, forcément, je pense que ça ne doit pas te donner envie de te concentrer sur ce qui se passe dans le ring quand tu as un spot de lumière. À l'extérieur en fait, donc c'est un peu chelou ça comme choix. Bon, c'est toujours les choix de mise en scène de Triple H, hein, qui on sait qu'il aime tenter des trucs, mais ça pour le coup j'ai trouvé ça bizarre parce que je voyais les filles qui se battaient sur le ring, puis je voyais elles, c'était un peu dans la pénombre avec un espèce de spot qui passait par dessus elles, et ensuite j'ai compris le spot, il allumait les filles qui étaient à côté du ring. Bon voilà, c'était un peu bizarre. Et à noter quand même que Bianca avait changé de tenue entre l'opener et le main event, là elle était en tenue minimaliste, mais qu'est-ce qu'elle est baraquée, purée. C'est impressionnant. Le physique qu'elle a,
c'est pas pour rien qu'elle est championne depuis aussi longtemps. Elle a quand même un physique hors du commun.
C'est
pas souvent mis en valeur par ses costumes un peu pourris, là. Mais ce soir-là, effectivement, en mode minimaliste, ça fait vraiment ressortir le personnage Bigger Van Life qu'elle est, en fait. C'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est où elle est. Hein. C'est parce que c'est un monstre de la nature, en fait, Bianca Belair.
C'est compliqué de trouver un équivalent masculin, mais c'est comme tu dis, c'est un monstre de la nature, un peu à la Lesnar ou des trucs comme ça. C'est une fille, tu te dis, mais comment ça peut exister dans la vraie vie, quoi. Elle est vraiment balèze, quoi.
C'est une sportive de haut niveau depuis le début, quoi. Hein. C'est pas du Alexa Bliss.
C'est plus une catégorie.
Donc là, on va avoir à Crown Jewel ce match. Donc c'est du. Comment on appelle ça ? Last Woman Standing, du coup. Entre Bayley et Bayley, hein, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Voilà, bon, on verra ce que ça donne. Et comme tu dis, effectivement, ça laisse la porte ouverte à une victoire pour Bayley, vu qu'il n'y a pas de disqualification et qu'il y a une histoire de booking inversé. Sauf s'il se passe des choses à SmackDown.
Je pense que ça sera à SmackDown. Hein. C'est un show enregistré.
Ouais, c'est un show enregistré. Ouais, de toute façon.
Je pense qu'ils vont juste déjà les affaires courantes et il ne se passera rien du tout à SmackDown.
On a un match pour le titre intercontinental entre Gunther et Ré Mysterio, c'est déjà suffisant pour faire le show.
Voilà.
On a fait le tour de l'émission, hein. Je crois qu'on n'a rien oublié. Donc on va passer au mot de la fin. Il faut un top, un flop et une note.
Déjà le mot de la fin, bah oui, on va vite.
Ah, bon. Je carbure. Hein.
Je vois ça, non, c'est... ça foutre effectivement, bordel. Mon flop, du coup, moi je le donne à Gargano. Voilà, j'ai trouvé
que allez, qu'il... hop, Gargano.
Mais là, il le mérite cette fois-ci en plus. Cette fois-ci, c'est vraiment, il le mérite. Il m'énerve là. Mais il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens qui cassent le kayfabe là. Je trouve ça insupportable. Mon top, j'ai envie de le donner aux filles quand même. Moi, je trouve qu'elles ont quand même bien tenu la. Elles ont bien tenu le truc. Puis en plus, le reste, il n'y a pas de segment vraiment marquant. Je me le refais dans la tête. Le show, j'ai pas d'autres souvenirs de trucs extrêmement marquants, même si le Halloween était sympa, hein, c'était de bon esprit. Mais voilà, ouais, vu que j'ai tellement savaté les filles ces dernières semaines que je vais leur donner quand même un petit top d'encouragement. Bah, tu vois, quoi, comme quoi, je suis quelqu'un de juste. Hein.
Non, mais c'est malgré les accusations qui ont été portées, non, voilà, t'es quelqu'un de juste.
Voilà, très bien. Et si Gargano il prend cher, c'est parce qu'il le mérite.
Voilà.
Ma note, du coup, je suis un poil plus enjoué comme que les derniers Raw qui m'avaient franchement ennuyé. Donc, je vais comme une note sympathique. Je vais mettre un bon 3,25 pour ce Raw qui finit par un changement de titre en plus pour un gâcheux. C'est toujours un petit plaisir. Donc 3,25 pour ce Raw.
3,25, bah, c'est une bonne note. Hein. Je suis moins enthousiaste que toi. Je vais mettre mon top. Je vais le donner à Seth Rollins. Je trouve qu'il est chaque semaine. Ah non, mais non. Je vais le donner à JBL. Voyons.
Ah oui, bah JBL aussi.
Voilà, les deux. Je peux donner ex aequo les deux. C'est les deux mecs qui savent faire leur boulot. Roman Reigns aussi, mais voilà, bah, je vais donner à JBL quand même. Il l'aura peut-être chaque semaine, comme c'est parti. Voilà, faites des belles promos, jouez avec le public, faites sortir le charisme là. C'est ça qu'on veut voir à Monday Night Raw. Ça peut s'appliquer à Seth Rollins aussi. Ensuite, le flop, j'ai donné à Mustafa Ali, qui était bien ringard. Son petit mode babyface, là, qui se fout de la gueule du mi, j'ai trouvé que c'était nul. Sa victoire, tout le monde s'en fout. Il se fait taper sur la gueule, il met over son... Il fait faire un face turn à Rollins. Mustafa Ali s'est mal barré pour lui, quoi. En plus, il a pas de match à Crown Jewel.
Ah ouais, je vois ça, il est toujours pas. Hein. J'ai regardé le www.com et je le vois toujours pas son match à Crown Jewel. Hein. Alors, s'il a pas ça, il a rien, hein, Ali.
Ouais, c'est pour ça. Ça flop. Ça flop pour Mustafa Ali. J'ai rien contre lui, hein. J'aime beaucoup. Très bon catcheur et tout ça. Il a des idées et tout ça, mais malheureusement, là, son push, je pense que ça va aller dans le mur. Et ma note, je vais mettre 2,5. Moi, je suis jamais vraiment rentré dans le show. Hein. J'ai trouvé ça très moyen. Encore une fois, il n'y a rien de honteux. Les gonzesses, elles ont fait le boulot, clairement. Mais c'est juste, c'est les choix. Les choix de scénaristiques, les choix de qu'est-ce qu'on met en amont, comment on rythme le show, etc. que je trouve qui n'est pas au point, là. C'est trop mou. C'est trop mou, j'arrive pas à rentrer dedans.
Il devrait mettre, moi je pense qu'ils devraient mettre plus leurs œufs dans le même panier au lieu de devoir faire un temps égalitaire pour tout le monde là.
Oui, ça il faut arrêter maintenant. Surtout que t'as pas de mid-card ou de low-card pour les femmes au final quand même. Donc ils construisent pas quand même un roster féminin avec de la profondeur finalement. Ils mettent du temps d'antenne avec le main event de la division féminine. Alors ils le doublent quand on arrive au Go-Home Show quoi, mais. Tu surexposes les gens, quoi. Donc, c'est pas. Ça fonctionne pas. C'est écœurant, un petit peu comme.
Et ils mettent. T'as pas plus de place laissée à un mec comme Rollins qui, qui marchent sur l'eau que des mecs.
Exactement.
Alors je vais pas dire Gardon, mais je vais dire Loomis, enfin tous les autres moyens là qui même Gable que j'aime bien, il devrait pas avoir autant d'antenne que Rollins.
C'est ça. Ils auraient pu faire un fil rouge de l'émission pour construire le match justement Rollins Austin Theory. Finalement, plutôt que de le sortir à out of nowhere, tu faisais un fil rouge tout au long de l'émission, comme ça tu avais Rollins tout au long de l'émission, tu faisais pusher encore un peu plus Austin Theory puisque tu lui donnais du temps d'antenne. Et voilà,
puis tu mets Rollins qui croise tout le monde. Enfin, il faut qu'il...
Ouais.
Là, tu as un mec qui marche, il faut absolument qu'il en profite pour le mettre, bah, qu'il soit le poumon de l'émission, en fait. Plutôt que d'être un segment parmi tant d'autres, en fait.
Ouais. Voilà. Pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se regarde, mais il faut s'accrocher, je trouve, quand même. Disons que j'aurais pas regardé cette semaine, c'était pareil. Quoi. On aurait loupé un changement de titre.
Ouais,
mais un titre mineur, donc on s'en fout.
C'est toujours plus que SmackDown qui a l'avantage d'avoir une heure de moins et surtout qui a la Bud Light qui, pour le coup, fait le rôle de poumon, en fait.
Ouais,
eux, exactement. Ils sont là souvent en début, fin d'émission, puis ils croisent des gens, ils te racontent des petites histoires et puis ça occupe facilement le terrain et tu sais que quand tu regardes le SmackDown, tu vas regarder l'émission de la Bud Light, en fait. Et c'est ce qui manque à Raw, en fait.
Ouais, il faudrait que Raw ce soit l'émission de Rollins, Monday Night Rollins, hein, et ramenez-nous Kevin Owens, bon sang. Le Kevin Owens Show, Monday Night Rollins, voilà, parce que le Miz.
Et tout ça, c'est mon micro d'ailleurs. Hein. Ils sont où les shows micro là au milieu du ring, les Kéo Show, les je sais plus quoi Rollins. Plus personne fait de segments micro. Il se passe quoi les gars là?
Bah oui, bougez-vous. On n'est pas Dynamite, hein. Vous le rappelle.
Ah
voilà, on verra ce qui va se passer après Crown Jewel. Hein. On va peut-être se relancer dans une nouvelle ère aussi. Hein. Il va peut-être avoir un check-up aussi dans pas longtemps. Ou une draft. Je ne sais pas où on en est de ces histoires-là. Hein, ne me demandez pas.
C'est vrai qu'ils n'en parlent plus.
Mais en tout cas, on n'a pas eu de retour cette semaine. Ah si, il y a une petite nouvelle dont je n'ai pas parlé. C'est la présence de Bray Wyatt à Crown Jewel.
Ouais, et bien ça fera pas. Ça motive pas pour regarder, perso. Hein.
C'est ça. Bon, il a eu quelques exploits déjà en Arabie Saoudite. Les gens se souviennent de lui, peut-être. Il avait fait peur aux enfants. Voilà. Bon, eh ben, on a fait le tour de ce Monday Night Raw. On vous rappelle qu'on a notre review de SmackDown qui est déjà en ligne hein, depuis un bon moment. N'hésitez pas à aller à checker. C'est gratos. On est présent sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. On est sur Twitter, @catchupcdc, on est sur Facebook, Instagram. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, c'est toujours gratos. Pour nous soutenir, mettez des likes, vous pouvez mettre des commentaires également. Dites-nous un peu ce que vous pensez de cet épisode de Monday Night Raw, quelle note vous lui mettez, quels sont vos tops, quels sont vos flops. La petite cloche, quand vous êtes sur YouTube, pour être averti dès qu'on a un contenu qui sort, et il y en a beaucoup. Mon papy, merci beaucoup d'être venu.
Bah, merci à toi, Ringside, même si je sens que c'était pas l'euro qui te passionnait le plus. Mais il y aura des jours meilleurs, ne t'inquiète pas.
C'est vrai, j'ai passé une bonne soirée, mais c'était pas celle-là. De toute façon, c'est pas grave. On se retrouve très bientôt pour SmackDown. On vous défrichera Crown Jewel aussi. Tout ça en temps et en heure. Et puis, on vous remercie, vous. Hein. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous. À enregistrer et puis on se retrouve très bientôt. Voilà, passez une bonne journée, bonne semaine et à bientôt pour SmackDown. Salut des amis.
Salut à tous. Bon, heureusement qu'on n'est pas jusqu'à avec nous parce que là, il est en train de nous comparer la division féminine à un kebab. Donc, ça aurait pu partir complètement en vrille.
Et puis, on n'a pas besoin de ça en ce moment après, avec tes propos d'extrême droite de la semaine dernière.
Oups!